Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie et après sur la planète Terre ou la planète Mer grâce au tendanceouest.com. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le père Olivier Ruffray. Bonjour.
Bonjour.
Alors si vous aviez à vous présenter dans votre itinéraire de vie d'homme et puis de prêtre aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire dans votre choix vocationnel ?
Je suis né à Bayeux, j'habitais Lisieux assez vite à la mort de mon père, j'avais 8 ans et demi. Et à propos de ma vocation, j'en parle dès l'âge de 4 ans. J'en parle très mal. Je dis à l'époque, je veux être meuquet. Dans mon langage à moi, ça veut dire monsieur le curé. À l'époque, je jouais à la messe. Donc, dans une véranda que nous avions à la maison, je montais et marqueboutais sur le dossier d'une chaise et je haranguais mon hypothétique assemblée qui était là devant moi. Et je disais, mes frères, mes sœurs, donc ça, c'est le temps des 4 ans.
Est-ce que vous avez été attiré par un autre métier, une autre vocation que celle de devenir prêtre ?
Oui, alors en terminale, l'idée de la prêtrise, elle est venue, elle est repartie à différents moments. Et puis en même temps, il fallait penser aux études, donc j'ai commencé des études de droit. L'idée, c'était d'être diplomate un jour, c'est ce qui m'intéressait. Et en fait, le Seigneur est venu me rechercher pendant que je doublais ma première année de droit, parce que finalement, même si la matière m'intéressait, peut-être que mon cœur était ailleurs.
Et comment avez-vous fait pour réfléchir, pour discerner si cette vie à l'appel de Dieu ou bien encore le fruit de votre imagination, ce choix de vie ?
C'est difficile. À travers le temps, je dirais que la réponse à chacune de nos vocations est cette conjugaison entre notre propre désir et le désir que le Seigneur a sur chacune de nos vies. Il me semble que pour nous faire un clin d'œil sur chacune de nos vocations, le Seigneur se sert de notre désir qu'il affine avec le temps.
Alors, un directeur, nous voyons bien en quoi consiste cette fonction, mais vous, père Olivier Ruffray, vous êtes recteur de la basilique de Lisieux, c'est-à-dire ?
Je dirais simplement que pour un prêtre, c'est être responsable de cette basilique de Sainte-Thérèse à Lisieux, qui est un lieu emblématique qui nous convoque au cœur même de ce qui fait la vie de Sainte-Thérèse. Donc, être recteur, ça veut dire partager ce qui fait le message de Sainte Thérèse, mais c'est aussi organiser la vie au jour le jour de toutes celles et tous ceux qui travaillent là, et puis avec tout un tas de collaborateurs, évidemment, et puis c'est aussi organiser depuis Lisieux la pérégrination, le voyage des reliques de Sainte Thérèse, et maintenant de ses parents, les Saint-Louis et Zélie Martin, dans le monde entier.
Thérèse de Lisieux, une sainte normande, avec deux pôles géographiques en Normandie, Alençon et Lisieux.
Quand nous pensons à Sainte Thérèse et à sa famille, et quelle famille, trois saints aujourd'hui offerts par l'Église au monde entier et à la vie de l'Église, je dis toujours, la source est à Alençon, le fleuve passe par Lisieux et nous entraîne sur les 5 continents, dans le monde entier. Telle est la vie de Thérèse qui naît à Alençon, que sa vie amène lorsqu'elle perd sa maman à 4 ans et demi à Lisieux avec le reste de sa famille, où elle va continuer de s'enraciner dans cette terre normande pour pouvoir être offerte au monde entier.
Et déjà, père Olivier Ruffray, apparaît le côté missionnaire de Thérèse de Lisieux. Peut-être quelques mots d'explication.
J'aime bien une distinction que l'on a en théologie entre le particulier et l'universel. Être de quelque part pour pouvoir s'ouvrir à l'inconnu et à ce qui est universel. Et il me semble que Thérèse nous invite sur ce chemin-là aussi.
Un chemin pour randonner, un chemin pour pèleriner. Nombreuses sont les personnes qui vont à Lisieux pour un temps de pèlerinage. Mais n'est-ce pas la montagne intérieure qui est la plus difficile à gravir ?
Ce qui est intéressant avec Sainte Thérèse, par exemple, c'est que Thérèse nous met la montagne à portée de main. Elle dit à propos de la montagne, il y a entre les grands saints et moi-même, dit-elle, la même différence qu'il y a entre une haute montagne et un grain de sable. Et nous habitons entre la montagne et la mer, donc nous savons ce que ça veut dire. Et Thérèse dit, je ne peux par moi-même gravir le rude escalier de la perfection. Alors non pas la perfection morale du style fais pas ci, fais pas ça, ou fais ceci, fais cela, mais la perfection dans l'amour qui va ensuite induire un comportement, évidemment. Mais Thérèse commence par nous dire, je ne peux pas par moi-même monter et gravir cette montagne.
Et racontez-nous ces différents voyages, ces différents pèlerinages que Thérèse fait en 1887.
Thérèse va à Rome, elle parcourt les grandes villes, elle va en Suisse, elle va d'abord à Paris, elle va découvrir les grands lieux à Rome, etc. Et dans les hôtels où elle va, il y a un ascenseur. Et donc, elle dit, nous sommes dans un siècle d'invention, et elle va prendre l'image de l'ascenseur. Elle dit aujourd'hui, chez les riches, il existe un ascenseur. Il n'y a plus besoin de se fatiguer pour monter les marches. Elle dit, moi aussi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever vers la montagne, me permettre de gravir le rude escalier de la perfection à la rencontre du Seigneur lui-même. Et elle comprend que finalement, elle dit, vos bras, ô Jésus, seront mon ascenseur pour gravir cette montagne, le rude escalier de la perfection. Et donc, elle comprend que pour atteindre le cœur de Dieu, il suffit de se laisser faire. Et ça va être toute la voie nouvelle, la petite voie dont on parle, de Sainte Thérèse, de se laisser faire, de choisir de rester petite. Et elle attrape, à la façon charismatique, pleine de l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Elle ouvre la parole de Dieu et elle découvre ce passage. « Si quelqu'un est tout petit... » qu'il vienne à moi. C'est dans Proverbes chapitre 9. Et Thérèse a tout compris de cette petite voix qui lui permet d'atteindre les sommets en acceptant de fondre dans les bras de Dieu. Comme le dit aussi la prière des psaumes, hein, comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. L'image d'un enfant qui se blottit dans les bras de son père ou de sa mère et qui n'a rien à craindre puisqu'il est dans les bras de son papa ou de sa maman. Qui permet à Thérèse de comprendre que finalement, le corollaire de cet abandon, c'est la confiance.
Chanteurs et chanteuses ont aussi été inspirés par les textes de Sainte Thérèse de Lisieux, comme Natacha Saint-Pierre.
J'ai une petite histoire à ce sujet. Un jour, un séminariste qui était en stage à Honfleur me dit « Natacha Saint-Pierre est à Lisieux ». Il y a un grand article dans le journal de notre région. Je découvre dans l'article qu'avant de venir à Lisieux, elle ne connaissait pas Sainte Thérèse. Alors, bien sûr, il y a eu ce magnifique disque, il y a Vivre d'amour, il y a Aimer, c'est tout donner, ces belles œuvres de Thérèse, et finalement, c'est bien que les artistes eux-mêmes puissent composer sur les poésies même de Thérèse, ou ses textes mêmes, parce que Thérèse a écrit ses poésies sur des airs qui lui étaient familiers, et qui lui permettait certainement de trouver la rime plus facilement. Et il est bien que pour notre siècle d'aujourd'hui, les uns et les autres s'emparent depuis longtemps déjà de l'œuvre de Thérèse pour nous faire goûter en musique cet enseignement, ce cœur à cœur de Thérèse qui nous convie sur les chemins de bonheur.
Avec vous, nous parlons de la vie de Sainte Thérèse de Lisieux, puisqu'en 2023, nous fêtons son 150e anniversaire de sa naissance. Quelle était donc cette voix intérieure que Thérèse de Lisieux entendait ?
Elle ne vit que pour l'amour de Jésus. Ça veut dire que la petite voix de Thérèse nous enseigne valablement à mettre nos pas dans ceux du Seigneur lui-même pour gravir précisément cette montagne et nous renvoyer auprès de nos frères et sœurs dans la charité qui est le cœur même de la vie de Thérèse.
Et quelle est cette expression de Thérèse de Lisieux qui pourrait illustrer votre propos ?
La charité me donna la clé de ma vocation. Et je dis souvent aux jeunes et aux moins jeunes, quand vous mettrez la main dans votre poche pour atteindre votre clé, et la mettre dans le trou de la serrure pour entrer chez vous, rappelez-vous que la charité me donna la clé de ma vocation.
Le pape Jean-Paul II a déclaré Thérèse de Lisieux docteur de l'Église. Qu'est-ce que cela veut signifier lorsque nous parlons de docteur ?
C'est un titre qui est donné dans l'Église pour montrer que le chemin de vie d'abord et l'enseignement des saints en question, car il s'agit toujours de saints et de saintes déclarées par l'Église, que les papes, à travers l'histoire, finissent par déclarer docteur. Ça veut dire que leur vie et l'enseignement qu'ils ont prodigué témoignent de quelque chose de fort, d'important, pour retracer la propre route de chacune de nos vies. Ça veut dire que tout ce que Thérèse a écrit nous est nécessaire pour avancer, nous aussi, sur le chemin de nos vies.
Alors les saints et les saintes sont parfois invoqués pour guérir d'une maladie. Est-ce que Thérèse de Lisieux guérit d'une maladie en particulier ?
Elle ne guérit pas comme un médecin de médecine qui sont très nécessaires, évidemment. Mais Thérèse nous aide peut-être à guérir de notre relation parfois délicate avec Dieu lui-même. Dieu veut notre bonheur, Dieu veut que nous puissions l'aimer en retour de l'amour qu'il nous prodigue. Et Thérèse nous invite à cette sûreté de la voie qu'elle nous enseigne, qui est celle de l'Évangile, tout simplement, et à cette attitude de confiance et d'amour envers Jésus qui a tout donné par amour pour chacune et chacun d'entre nous, et à travers chacune et chacun d'entre nous pour notre humanité.
2023 marque un double anniversaire pour Sainte Thérèse de Lisieux, sa naissance, sa béatification, et l'UNESCO a souhaité marquer cet événement.
Oui, 150e anniversaire de la naissance de Thérèse, et en même temps, en 2023, nous fêtons les 100 ans de la béatification de Thérèse, donc il y a un double anniversaire. Et nous avons proposé, et la France a choisi de proposer à son tour à l'UNESCO la figure, la personnalité de Thérèse de Lisieux. Et l'UNESCO a validé cette proposition et a repéré à travers l'œuvre de Thérèse que finalement toute son œuvre était, et la personne même de Thérèse, agissait en faveur de la paix. À travers les différents accents qui sont ceux de l'UNESCO, que sont la culture, l'éducation et la science. Donc il a fallu montrer Thérèse comme une femme de culture. Ça a été assez facile car elle a beaucoup écrit. Il a fallu montrer Thérèse comme femme éducatrice, éducatrice dans l'âme, dans le temps où elle prend soin de ses novices et à travers tout son enseignement, elle nous éduque avec une très belle pédagogie qu'elle a dû goûter déjà chez son papa, Saint-Louis Martin, qui a été un grand pédagogue, et puis femme de science, la science d'amour, il n'est que cette science-là. Et c'est la suite du manuscrit B dans les manuscrits autobiographiques de Thérèse, où elle découvre le cœur de sa vocation. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout. Ma vocation, je l'ai enfin trouvée, ma vocation, c'est l'amour.
Nombreuses sont les personnes qui se sont rendues à Lisieux, que ce soit des personnes anonymes ou connues, comme Robert Hossein ou encore Natacha Saint-Pierre. Vous-même, vous avez reçu des confidences de ces personnes qui demeurent marquées par ses écrits et par la personne de Thérèse.
J'ai rencontré effectivement les personnes dont vous parlez et d'autres encore. Et c'est, je pense, le secret de Thérèse. Elle vient d'abord comme une amie s'adresser à nous. Et il me semble que auprès des gens inconnus ou très connus, c'est d'abord cette relation qui se tisse entre quelqu'un qui s'appelle Thérèse et quelqu'un d'autre qui vient à sa rencontre, ou plutôt à la rencontre desquelles Thérèse vient elle-même.
En tant que recteur de la basilique de Lisieux, il y a toute une organisation autour des pèlerinages, les conférences que vous pouvez animer avec des salariés, mais aussi avec des bénévoles pour accueillir de nombreux groupes. Comment tenir en même temps la petite voix de Thérèse de Lisieux et en même temps tout ce qui est organisation?
Je suis recteur au sanctuaire de Lisieux, mais je dis toujours que c'est elle qui conduit la maison. Et ça, c'est reposant de se dire que même s'il faut décider et manifester une certaine volonté pour faire avancer la maison. En fait, je sais pertinemment, du fond de mon cœur, que c'est elle qui conduit la maison et que nous allons là où elle souhaite que nous allions. Et donc ça, c'est reposant, c'est ressourçant, et c'est un bonheur d'être au service de Sainte Thérèse et des Saints Louis et Zélie Martin, ses heureux parents.
Nombreux sont les livres qui parlent de Thérèse de Lisieux. Je retiens celui-ci, Naître et renaître, avec des morceaux choisis de la Sainte. Préface de vous, Père Olivier Ruffray, et postface de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Bayeux et Lisieux. Quelle est la singularité de cet ouvrage?
Nous avons édité des morceaux choisis de toute l'œuvre de Thérèse, et c'est l'éditeur Antoine Bellier de Salvator qui nous a demandé de le faire parce que nous nous sommes aperçus que les gens aiment beaucoup Thérèse, mais tout le monde ne lit pas Thérèse, et c'est dommage de se priver d'un trésor d'écriture qui nous convoque dans les profondeurs de l'âme et de ce que nous sommes réellement les uns les autres, comme personnes qui essayons de grandir à travers les différents âges de notre vie, et d'apporter une propre réponse à notre propre questionnement intérieur, à notre quête de sens dans la vie qui est la nôtre. C'est un livre que nous avons voulu faire pour célébrer les 150 ans de la naissance de Thérèse, Naître et renaître.
Et quels sont les moments importants de ce livre que vous retenez?
Le premier moment est celui de la naissance. Pour pouvoir exister, il faut naître quelque part. Le deuxième temps, c'était de nous apercevoir que notre vie est traversée par de nombreux passages de la mort à la vie. Et c'est l'itinéraire baptismal qui est le nôtre, le propre itinéraire de la vie de chacun de nos baptêmes, de passer de la mort à la vie, pour gagner la vie, pour choisir la vie, comme dit le livre du Deutéronome. Et puis, cette invitation à naître et renaître nous invite, somme toute, en un troisième temps, à la charité. Il me semble que ce titre était bienvenu pour ce 150e anniversaire de la naissance de Thérèse, Naître et renaître, morceau choisi de Thérèse, pour retracer la propre route de chacune de nos vies.
Et quel est ce morceau choisi de Thérèse de Lisieux que vous nous laissez ?
Lorsque Thérèse écrit sa dernière lettre, qui est la lettre 266, qui en fait est une petite image pieuse qui représente l'enfant Jésus avec une hostie derrière, elle dit « Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit ». Je l'aime, il n'est qu'amour et miséricorde. Et ça, c'est toute la découverte de Thérèse. Mais pour cela, il faut choisir d'emprunter le chemin de la petite voie, d'un abandon entre les bras de Jésus.
Merci Père Olivier Ruffray, je rappelle que vous êtes recteur de la basilique du sanctuaire de Lisieux.